C'est intéressant quand on lit un philosophe inconnu d'essayer de découvrir son point de départ. Ceux qui, d'une certaine manière, échappent à la critique. Parce que c'est premier dans l'ordre génétique. Parce que le premier dans l'ordre de perfection, il varie. Quand vous montez sur une montagne, vous savez le point de départ. Et puis vous vous arrêtez à 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres. Vous vous arrêtez et puis vous regardez le chemin parcouru. Et puis vous regardez le chemin à parcourir. Ça dépend des pensées, ça. Il y a des gens qui regardent tout de suite. Tiens, tout ça à faire. Alors on peut s'arrêter un petit moment. Puis il y a des gens qui disent, oh, on a déjà beaucoup fait. Hein. On va s'arrêter. Puis on n'a pas de limite. Et on s'arrête. C'est très simple. Hein. On fait ça tout le temps. Et on fait ça tout le temps avec quelqu'un et on s'aperçoit en faisant une promenade si il a le courage d'aller plus loin ou s'il est vite fatigué. Je permets de refaire ça avec chacun de ses novices. Puis alors il mettrait derrière son dos 1 kilomètre, 2 kilomètres avant de s'arrêter. Point de vue philosophique, les points de départ sont quelquefois très difficiles à trouver. Dans un philosophe, il ne sait même pas le point de départ qu'il a pris. Aujourd'hui, c'est très souvent ce qui arrive. Alors à ce moment-là, vous savez quel est son point de départ. Je le dirai après. Et c'est intéressant. D'où vient-il ? On a posé la question pour notre Seigneur, hein. D'où vient-il ? Il vient de Joseph et de Marie. Ah, on a connu, puis on a connu ses cousins, ses frères. D'où vient-il ? Melchisédek, d'où vient-il ? Alors, c'est trop rien, parce que on part de la foi. Alors, de la foi, on sait d'où on part. De la parole de Dieu, point de départ, ça, on verra ça demain. Aujourd'hui, c'est la philo, on part d'où ? Quand on fait la philosophie grecque, le point de départ, c'est toujours très intéressant, la philosophie grecque. J'ai enseigné au moins 3-4 fois dans ma vie. C'est toujours très intéressant. Le point de départ. On voit que le point de départ est très varié. Il y a un point de départ du mouvement, ce qui est mu. Il y a un point de départ d'intuition. Il y a un point de départ de réflexion critique. Il y a un point de départ sur ce que les autres pensent. Très souvent, aujourd'hui, le point de départ, c'est sur ce que les autres pensent. On demandera à quelqu'un, qu'est-ce que vous pensez sur telle chose ? Ah, je sais que tel pense ceci, tel autre pense. Le point de départ le plus radical, qui est vraiment le point de départ absolu, c'est l'expérience. Le toucher, l'expérience du toucher, pas l'expérience de la vision. On peut se tromper. La toucher, c'est très difficile d'avoir des hallucinations du toucher. On en a, on peut en avoir, ça peut exister. Mais c'est le point de départ radical. Hein. Parce que tous les autres en présupposent un autre. Quand vous partez de l'opinion des hommes, ça peut être un point de départ pour vous, vous n'avez jamais pensé ce sujet. Et puis, tiens, je vais regarder ce qu'ils ont dit. Mais eux, d'où sont partis pour avoir leur opinion? Ah, ils ont réfléchi sur des cas semblables, puis ils ont fait leur opinion. On peut partir de l'opinion. Partir de l'opinion des hommes. On fait sur un sujet, on regarde ce que on dit telle personne intéressante qui ont écrit là-dessus. Mais ce point de départ sur l'opinion des autres présuppose un autre point de départ. Comment sont-ils arrivés à leur opinion? C'est parce qu'ils avaient fait telle expérience, parce qu'ils étaient dans tel milieu. Donc, le point de départ de l'opinion des autres, c'est un faux point de départ. C'est pas un vrai point de départ. Le vrai point de départ, c'est l'expérience. Et l'expérience interne ou externe. Parce que j'ai deux sortes d'expériences. J'ai la réflexion que j'ai sur les sujets. J'ai réfléchi beaucoup là-dessus. J'en ai une certaine expérience. Et puis, l'expérience externe, le toucher. Je n'ai pas l'expérience de la Lune. Ah, j'ai pas l'expérience. Oui. Je la vois, mais je ne l'ai jamais touchée. À un moment, on était furieux sur les soucoupes volantes. Et j'ai essayé de regarder sur quoi on se reposait. On se reposait sur les visions, l'ouïe. Jamais sur le toucher. Ah tiens. Si jamais on l'a touché, est-ce que les soucoupes volantes existent? Ah, elles existaient dans l'opinion, dans l'imagination des gens. Mais il y avait peut-être une hallucination. Quand on est dans le désert, on a des hallucinations. On désire beaucoup voir une oasis. On désire beaucoup. Alors on le désire tellement qu'on la projette. Phénomène de projection. Il faut saisir que, au fond, le point de départ, c'est l'expérience du toucher. Parce que l'expérience de la vision, j'ai jamais touché la Lune, parce que je n'ai pas été cosmonaute. Mais ça m'a intéressé de voir des gens qui ont touché la Lune. Parce que moi, je ne l'ai jamais touché, je l'ai vu. Et la vision fait que la Lune, il y a la pleine Lune. Puis il y a les quartiers de la Lune. Et là, il y a des gens simples. C'est déjà arrivé. Même à notre époque, il y a des gens. Je me souviens, ce brave type. On parlait des cosmonautes. Mais c'est curieux qu'ils ne partent pas à la pleine Lune. Elle est plus grosse quand même. Et ils partent même quand il n'y a qu'un tout petit quartier. C'était très amusant de voir que, justement, la vision fait des choses fausses. Quand on met un bâton dans l'eau, il est coupé. Tiens, puis on le dit, un miracle, il est droit. On s'aperçoit que l'expérience, elle peut se tromper. On pose l'expérience de la vision. Or, dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de réalités au point de vue expérimentation reposent sur la vision. J'ai en physique avec des instruments très perfectionnés, on arrive à voir des choses qu'on ne voit pas à l'œil, qu'on ne peut pas toucher, qu'on n'a jamais touché. Et il y a des constructions scientifiques qui sont uniquement sur des visions grâce aux instruments qui augmentent énormément la vision. Et on n'a jamais touché. Et on dit que ça existe. Vous n'en savez rien. Il n'y a que le toucher qui montre que ça existe. Pas la vision. Or, il y a des expériences qui ne reposent que sur la vision. Donc, la philosophie repose sur l'expérience du toucher. L'expérience du toucher, c'est très difficile d'avoir des hallucinations du toucher. On peut en avoir quand on est très fatigué. On a l'impression qu'on vous touche l'épaule. Mais voyez, on a l'impression qu'on vous touche l'épaule. Mais ce n'est pas une vraie expérience, celle-là. C'est une expérience interne du toucher. L'expérience interne du toucher, ce n'est pas votre expérience du toucher. Et puis vous dites, ah, tu me touches? Non, personne. Il n'y a personne. Et vous vérifiez que ce n'est pas une expérience, que ce n'est pas toucher en touchant vous-même. Autre chose est d'avoir l'expérience interne du toucher. Vous pouvez très bien avoir cette expérience que quelqu'un vous touche, mais personne ne vous touche. Vous avez l'expérience, vous avez imaginé. L'imagination se faufile à travers toutes nos expériences. Et elle fait que c'est rare qu'on ait une expérience vraiment du toucher. Je n'ai pas d'hallucination. Cette table existe. Et elle est en bois. Elle existe. Je la touche bien. Et je ne crois pas que je peux avoir une hallucination. Mais on peut arriver à faire que vous voyez quelque chose. Vous croyez absolument que votre vision touche la réalité. Non, il faut la toucher. Vous voyez, par exemple, la question des fleurs fabriquées et puis des fleurs naturelles. À la vision, vous pouvez vous tromper, elles sont tellement faites. Puis vous vous mettez à sentir, ah, vous vous trompez encore. Ah, si vous touchez, vous arrivez à distinguer que c'est fallacieux. Ce sont des fleurs fabriquées. Elles ne sont pas naturelles du tout. C'est en les touchant. Il faut bien discerner ça. Au fond, l'expérience du toucher, parce que vous avez cinq sortes d'expériences externes. Vision, ouïe, goût, et puis vous avez le toucher. Et l'expérience fondamentale, la plus radicale, c'est l'expérience du toucher. C'est pour ça qu'Aristote parle des carnes mollas. Il y a des gens qui ont un toucher très fin. Puis certains ont un toucher d'hippopotame. On fait enfoncer une aiguille dedans et l'aiguille il n'arrive pas. Et c'est vrai, pour l'expérience varie énormément. Il y a une expérience fondamentale et première, c'est celle du toucher. Une philosophie réaliste repose sur l'expérience du toucher. Avec les autres expériences, très bien. Mais vous ne savez jamais, quand vous voyez quelque chose, vous ne savez pas si ça existe ou ça n'existe pas. On a pu vous tromper. L'expérience de l'œil, de la vision, ne peut pas découvrir l'existence. C'est peut-être un drapeau, c'est peut-être quelque chose de fallacieux. Est-ce que c'est vrai? Le toucher, ça vous fait comprendre une réalité qui existe. Le toucher que vous pouvez avoir par votre pied vous dit bien qu'il y a quelque chose, mais c'est beaucoup moins distinct que quand vous mettez à le toucher. Parce que les épidermes du pied ont moins de finesse. Alors vous vous penchez, puis il fait noir. Vous penchez pas. Qu'est-ce que c'est? Une petite bête très douce. Avec le pied, vous avez touché que c'était quelque chose qui était un obstacle. Vous ne saviez pas très bien. Et en touchant, vous découvrez. La connaissance la plus fondamentale, la plus radicale, c'est le toucher. Alors vous avez toutes les autres expériences, mais en définitive, c'est toujours le toucher. Et le jugement le plus radical que vous avez, c'est de dire « ceci est ». Et quand vous dites ceci est, c'est-à-dire ceci existe. Ceci, vous l'avez découvert par vos sens, par le toucher, comme une réalité autre que vous. Et vous dites ceci est. C'est quelque chose de très radical. Je me souviens, à la soutenance d'un de mes frères, à la Sorbonne, il y avait un examinateur qui regardait l'examiné et puis qui me regardait et passait entre les deux. Et, mais qu'est-ce que vous voulez dire par votre jugement d'existence, ceci est? Je ne vois pas du tout ce que ça veut dire, ceci est. J'ai dit dommage. L'expérience du toucher absente. Ah, on a des expériences internes, mais nos expériences internes sont très souvent enveloppées d'imagination, enveloppées de la cogitative et de l'imagination. Mais il y a des expériences internes qui sont très fortes. instant, je suis en présence d'un examinateur. Ça, c'est une fameuse présence. Quelqu'un qui me pose des questions au moment d'un examen. Ou la présence d'un ami. Je lui serre la main. Et je lui serre la main avec toute l'intelligence que j'y mets. Je lui serre la main d'un ami autrement que serrer la main d'un étranger. C'est pas de la même manière. Un Mexicain, il vous embrasse en tapant sur votre épaule d'une façon très particulière. Et c'est quoi ? Tu es là. Tu es là. Tu es là pour moi. Et c'est pour ça que c'est enveloppant. Tu es là pour moi. C'est pas simplement bonjour. Un bonjour lointain, un bonjour cartésien. Je me souviens, c'était à Lyon, avec des amis, et le père de Ménas, qui aimait blaguer et montrer aux gens ce qu'il en était. On avait un rendez-vous pour le café, pas pour le repas, pour le café. Alors, on était dans le petit salon qui attendait, et on voyait les chaises bien rangées, qui n'avaient pas bougé depuis 50 ans. Bien rangées. Alors, Père de Messe a dit, on va s'asseoir par terre pour l'attendre. On sera beaucoup mieux, on va s'asseoir par terre. Et je me suis assis par terre avec lui. Alors, quand il a vu, la chaise était à côté. Ah, très étonné de nous voir. Il a failli dire, vous n'avez pas vu qu'il y avait des chaises ? Vous voyez, une expérience conventionnelle et l'expérience réelle. L'expérience conventionnelle, on est assis en chaise, on attend, sagement. Tandis qu'on voudrait, si vous êtes assis par terre, ça coupe complètement le conventionnel. Ou ils sont fous, ou ils sont très réalistes. Et tout de suite, la conversation a été très réaliste, parce qu'on était assis par terre. Alors, ils se sont demandé si eux devaient s'asseoir par terre. Il y a eu un petit moment d'arrêt, très curieux. Forcément, on se levait pour leur dire bonjour. Mais on se lève, et puis on s'assit. Et là, on s'assit par terre. Et eux se sont demandé s'il fallait s'asseoir par terre aussi. Alors, l'expérience qu'ils auraient eue n'est pas l'expérience spontanée, c'est une expérience d'imitation. Et ce n'est pas une véritable expérience. C'est déjà l'imagination qui vous enveloppe. On a beaucoup de peine d'avoir une expérience vraie du toucher. On touche des quantités de choses sans s'en apercevoir. On voit des quantités de choses sans les voir. Le philosophe qui cherche l'expérience la plus fondamentale revient et pense à cette expérience du toucher. Ceci est. Et je distingue cette expérience-là de l'expérience intérieure. Je suis maintenant de mauvaise humeur. À cause de quoi ? Je vois tout en noir. Je vois tout. C'est absurde, tout ça. Vous avez une expérience de vous. Pas uniquement une expérience d'avoir bien mangé. bien bu. Ça, on peut avoir aussi cette expérience-là. Mais il y a une autre expérience intérieure qui est beaucoup plus profonde. Quand vous réfléchissez profondément à une question, qu'est-ce que c'est que l'amour d'amitié? Vous réfléchissez. Et je prends exprès l'amour d'amitié. C'est une expérience interne. Et ce n'est pas une expérience uniquement interne. Parce que l'ami, ce n'est pas celui que j'imagine qui est là présent. L'ami, c'est une personne autre que moi. Et donc, mon expérience d'amitié, tant qu'elle est intérieure, c'est que j'attends mon ami. Je pense à lui. Mais penser à mon ami, c'est pas l'expérience de mon ami. C'est l'expérience de ma pensée. Ah, j'arrive à distinguer expérience interne, expérience externe. Et je vois que seule l'expérience externe me donne l'expérience de ce qui est. Je n'ai jamais l'expérience de ce qui est par le point de vue de réflexion sur ce que je pense. C'est très important de comprendre que toute expérience interne présuppose une autre expérience. Quand j'ai l'expérience interne de mon ami, c'est que je l'ai déjà vu, je l'ai déjà connu, et je pense à lui. Toute expérience interne, si importante qu'elle soit, si profonde qu'elle soit, présuppose une expérience externe. Donc, premièrement, au point de vue philosophique, je dois comprendre que seule l'expérience externe peut être quelque chose de premier. Et si c'est quelque chose de premier, c'est quelque chose qui se manifeste par soi-même. Une expérience seconde qui présuppose quelque chose de second, qui présuppose quelque chose de premier, est une expérience qui implique une relation. L'expérience de la relation, ce n'est pas premier. C'est très important ce que je dis là. Parce qu'il y a des philosophies qui reposent sur la relation. Toutes les philosophies, au-delà des mathématiques, Husserl, qui était d'abord mathématicien, puis qui est devenu philosophe, quelle est sa première expérience ? La relation. Or, la relation, je comprends très bien, chez les artistes, chez les mathématiciens, leur première expérience, c'est toujours la relation. Une relation réelle, alors chez les artistes, une relation de raison, chez les mathématiciens. Alors, vous voyez, si toute ma philosophie repose sur une expérience de relation. Une relation que personne n'a encore fait. Une relation particulière. Je ne rejoindrai jamais l'être. Je ne rejoins l'être que par l'existence. C'est une réalité qui existe, qui me révèle ce qu'est l'être. Une réalité simplement vécue en moi et non pas réelle. me donne conscience des relations, mais pas de l'être. Une philosophie qui repose sur les idées, donc le vécu de mon intelligence, elle repose sur des relations et non pas sur l'être et non pas sur ce qui est. Une philosophie qui repose sur l'expérience fondamentale est une philosophie qui peut devenir une expérience de l'être. Ah, pas tout de suite, hein. Il faut que dans cette expérience, je fasse la différence entre ce qui ne change pas, et le mouvement. Je distingue une philosophie de la réalité existante et une philosophie de ce qui devient. Et ce qui devient, j'en ai l'expérience par le mouvement. Et l'expérience de ce qui existe, c'est quelque chose de direct. Et j'arrive à distinguer de cette manière le point de vue de la philosophie de ce qui est et la philosophie de ce qui se meut, de ce qui est mu, de ce qui devient. Et j'aurai cette expérience qu'une philosophie du vivant unit l'être et le devenir. Le vivant, il devient, il est. C'est curieux. L'être et le devenir sont liés dans le vivant. Je vois donc que dire qu'une philosophie repose sur l'expérience, précisons, pas n'importe quelle expérience. Il y a des philosophies qui reposent sur l'expérience interne. Ce sont des expériences les plus riches comme expérience. Je me mets à rêver. Et ça peut être très riche. Et puis, j'essaie de poser. Cette philosophie qui repose sur ce qui devient en moi. C'est une philosophie de l'être et du devenir dans la vie. Alors, j'arrive donc à préciser qu'une philosophie ne doit pas se contenter de l'expérience. Elle doit préciser qu'elle repose sur l'expérience fondamentale. Ceci est. Et à ce moment-là, je suis en présence de l'être qui est. Et non pas seulement du possible, ce qui peut arriver. Et pas seulement la vie, ce qui devient et qui est. Je m'aperçois que dire que la philosophie réaliste repose sur l'expérience, je précise qu'elle repose sur l'expérience que j'ai du monde réel. Existant. Et je vois qu'il peut se faire une philosophie qui repose sur l'expérience de la vie. Un être vivant. Ou une philosophie qui repose sur une autre forme de vivre, sur la pensée, sur l'amour, sur ce que je pense et ce que j'aime. Donc, toute philosophie a un point de départ où l'expérience fondamentale de la réalité autre que moi, ou de la réalité qui est en moi, l'avantage d'une philosophie qui repose sur ce qui est, elle s'ouvre à tout ce qui est. Toutes les réalités existantes m'intéressent. Et je me pose la question très vite de savoir si cette réalité qui existe ce qu'elle est, d'où elle vient et en vue de quoi. J'arrive à découvrir les grandes interrogations que je me pose. Et c'est ça le génie d'Aristote, d'avoir découvert que mes interrogations sont cinq. Toutes mes interrogations sur ce qui est, c'est ce qui est par lui-même, dans sa détermination, ce qui est grâce à la matière, c'est une réalité physique, ce qui est si ce qui est peut changer, peut se modifier, si ce qui est peut être vivant. J'arrive à discerner les grandes interrogations que je me pose. Et je vois que ces grandes interrogations, j'ai toujours cherché ce qu'est cette chose. Ce qu'est cette chose dans sa détermination. Ce qu'est cette chose dans sa puissance. Ce qu'est cette chose dans sa relation à d'autres. Elle peut pâtir, elle peut être en acte. Ce qui est. Et ce qui est, comme personnel, comme ce que je possède, ce que j'ai, ce que je peux devenir, ce que je peux avoir. J'arrive à discerner les grandes interrogations sur la réalité. Bon, le mérite d'Aristote, c'est d'avoir découvert deux types d'interrogations qu'on retrouve exprimées d'une façon tout autre dans Auguste Comte, par exemple. Interrogation, qu'est-ce cela ? Qu'est-ce cela en sa matière, en ce qu'il est ? Qu'est-ce cela dans sa détermination profonde ? Qu'est-ce cela dans son devenir ? Qu'est-ce cela dans sa finalité ? qu'est-ce cela par rapport à ce qui est plus parfait que lui? Quelques grandes interrogations. Et ces interrogations, ce qui est très curieux, elles demeurent toujours. Aristote, je peux me poser. Et j'essaie de comprendre d'où ça vient. Comment ça fait-il qu'il y a 5 grandes interrogations? Et je m'aperçois que j'ai 5 sens. Donc, je touche le réel de 5 manières différentes. Par le toucher, par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût. J'ai 5 contacts avec le réel par mes expériences. Il y a des expériences où le toucher domine. Il y a des expériences où la vision domine. Il y a des expériences où l'ouïe domine. Il y a des expériences auxquelles l'odorat domine. J'ai 5 types d'expériences. Alors, est-ce que mon intelligence, qui est liée à l'expérience, aux sensations, n'a donc pas 5 orientations à partir de mes sens? Autrement dit, est-ce qu'il y a une relation entre mes 5 sens et les 5 types d'interrogations? Ça, c'est très intéressant de se poser la question. Aristote ne s'est pas posé la question, il a constaté. Mais j'ai le droit de me poser la question. Vous interrogez en quoi cela est fait? Qu'est-ce cela? D'où ça vient? En vue de quoi? Sur le modèle de quoi? Vous avez 5 types de grandes interrogations. Ça n'a pas changé depuis Aristote. Et chercher, ça ne change pas. J'interroge de cette façon-là. Et ces 5 interrogations proviennent de mes 5 sens. C'est donc lié à une intelligence incarnée dans un corps. Mais ce n'est pas factice, c'est quelque chose de naturel. Rechercher les grandes interrogations, en quoi cela, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réflexion sur ma manière de connaître. Or, je ne peux pas connaître quelque chose indépendamment de mes sens. Et pour chacun d'entre nous, il y a toujours un sens dominant. Pour certains, le sens dominant, c'est en quoi la matière. Il y a des philosophies de la matière. Des philosophies de la matière au point de départ et des philosophies de la matière encore maintenant. Il y a des philosophies qui sont orientées qu'est-ce? La détermination. Qu'est-ce? La détermination. C'est la causalité exemplaire qui prend tout. La causalité exemplaire, qu'est-ce? Dépend de en quoi? Et vous avez les liens entre matière et forme. Et vous voyez que ça repose sur une intelligence liée aux sensations, liée à l'expérience. Parce que mon intelligence, elle se développe grâce à mes sens, grâce à ce contact avec le réel. J'aurai donc dans ma philosophie 5 pistes qui reviennent toujours et qui viennent tous de la réalité existante. Hein. Ces 5 pistes sont différentes dans la recherche, mais elles recherchent toutes la même réalité. Je peux, après une première enquête, aller plus loin. La réalité principale que j'expérimente, c'est qui ? C'est l'homme. L'homme m'intéresse plus que les cataractes du Niagara. L'homme m'intéresse plus que les nuages. C'est vrai qu'en définitive, l'homme, c'est plus intéressant. D'abord parce que je suis homme. Donc c'est très intéressant. Et qu'en définitive, toutes ces recherches aboutissent à l'homme. Mais je vois que pour connaître l'homme, j'ai un avantage énorme, c'est que je peux le connaître de l'intérieur. Je peux lui soumettre certaines choses. Donc, après avoir fait une enquête philosophique première, selon les divers sens, je peux essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être existant, le Dasein. Qu'est-ce que c'est que l'être existant ? Je peux arriver à découvrir que mon intelligence, elle a comme fondement notre corps. C'est pas le fondement direct de l'intelligence, mais l'intelligence, mon intelligence se sert de mon corps comme d'un instrument. Mais mon intelligence n'est pas liée au corps. Alors il y a un premier dépassement, vous voyez, qui est très très important, c'est de découvrir l'âme spirituelle. Une âme qui est source d'une intelligence qui est capable de connaître quelque chose qui n'est pas matériel. Alors à ce moment-là, je commence à comprendre qu'il y a un grand partage. L'être matériel est sensible, puis l'être spirituel. Et je porte en moi les deux. Je suis lié à l'être sensible, à l'être matériel, à l'être animal. Et je suis lié à un être. Et lié à l'être animal, ça fait un discernement très important entre les êtres matériels et des êtres. Est-ce qu'ils existent ? Ils ne sont pas matériels. Entre des êtres purement spirituels, j'ai mon âme qui est à la fois forme du corps et qui est source de l'intelligence. Donc, je vois qu'en moi, il y a donc quelque chose que le philosophe peut regarder, voir s'il existe une réalité qui soit absolument libre par rapport à la matière. Moi, je ne suis pas libre complètement à l'égard de la matière. Je suis lié substantiellement à mon âme, à mon corps. Mon âme est liée substantiellement à mon corps. Et donc, je ne peux pas me séparer de mon corps quand je veux et comme je veux. Et je sens bien qu'il y a un double développement possible. Certains regarderont avant tout leur corps, d'autres regarderont avant tout ce qui existe au-delà du corps, l'esprit. Et je peux chercher, existe-t-il des êtres qui soient détachés du monde matériel. Et ce sera la grande question du philosophe. Existe-t-il des êtres qui peuvent... Est-ce qu'il existe une réalité autre ? Voyez, la philosophie repose sur l'expérience et la philosophie me conduit à cette grande expérience. Existe-t-il, à cette grande question, existe-t-il une réalité autre ? Parce que c'est ma finalité. Est-ce que je suis fait pour vivre toujours avec ce monde matériel ? Alors la mort est catastrophique. C'est un terme d'une fin. Ou est-ce que mon âme peut vivre séparée de mon corps ? Y a-t-il une possibilité d'exister. Est-ce qu'il existe un monde qui ne soit pas matériel ? C'est la grande question philosophique posée par la finalité. Est-ce que ma fin est de vivre au-delà de la matière ou de vivre enfoui dans la matière ? Et je vous poserai donc d'abord l'existence d'un être premier, purement spirituel, créateur du ciel et de la terre. Vous voyez comment la philosophie va s'organiser autour de la recherche des êtres physiques et vivants, de voir que, au point de vue de la vie, les êtres vivants ont quelque chose que les êtres purement matériels n'ont pas. La vie est immanente et le développement n'est pas seulement extérieur, mais il est immanent. Et donc, le vivant absorbe constamment ce qui est extérieur à lui pour qu'il puisse en vivre. C'est quelque chose. Grand comme moi, il y a un être premier. Partant de l'expérience qui me fait découvrir l'être en acte, l'exister, je suis conduit à me poser la question: qu'est-ce que l'homme ? Est-ce que l'homme est finalisé par l'univers physique, ou est-ce que l'homme est celui qui attend celui qui se sert du sensible pour réfléchir? L'épreuve de l'essence de Dieu, ou la preuve de l'essence de Dieu, est quelque chose de capital. Toute ma philosophie est faite pour ça, découvrir ma finalité. Ça m'intéresse de voir la connaissance du monde physique, mais ce monde physique ne peut pas être créé pour lui-même, puisqu'il est matériel et périssable. Et l'homme fait partie de ce monde physique. Mais l'homme en lui-même a-t-il quelque chose qui lui permet d'être indépendant de la matière? Tout problème de l'existence de l'être premier. Est-ce que je suis fait naturellement pour le connaître, pour l'aimer? Vous voyez que la philosophie a donc deux chemins. Le chemin de la connaissance externe, le chemin de la connaissance interne. Et ces deux chemins constamment convergent et s'allient. Et lorsqu'il s'agit de l'existence de l'être premier, ces deux chemins doivent s'allier, étant donné que pour notre intelligence, poser l'existence de Dieu est quelque chose de très grand. Alors, mon intelligence se sert de l'expérience interne qui me permet d'être allié à un autre, d'être l'ami. Et c'est grâce à l'union d'une réflexion très objective et d'une réflexion très subjective que mon intelligence peut arriver à se dépasser elle-même pour poser l'être premier créateur. Je vous